DW. Magazine Environnement.
C'est une situation inédite qu'a créée la pandémie du coronavirus. Pas de vaccin, pas de traitement. Le monde est resté impuissant face au virus. Pour certains, cette maladie est l'une des conséquences de la destruction de l'environnement. C'est la thèse que soutient Ibrahim Thiaw, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il est notre invité dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivi Tiassou au micro.
Nous atteignons des niveaux de dégradation du milieu naturel qui nous reviennent par des infections, par des maladies. Nous sommes allés trop loin dans notre recherche de gains et de productivité.
Ibrahim Thiaw est depuis près de 40 ans dans le domaine de l'environnement et du développement durable et il sait de quoi il parle. Il a été des années durant directeur et exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement avant d'être nommé secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Nul doute que de nombreuses leçons vont être tirées après la pandémie du coronavirus, un virus qui, selon certains, a été transmis à l'homme par des animaux. Et pour Ibrahim Thiaw, les animaux qui nous ont infectés ne sont pas venus à nous, nous sommes allés les chercher.
L'Organisation mondiale de la santé estime que 75% des nouvelles maladies infectieuses qui affectent l'homme sont d'origine animale. À peu près 60% de ces dernières sont d'origine animale, des animaux sauvages. Ça veut dire que nous avons rompu un contrat avec la nature. Nous atteignons des niveaux de dégradation du milieu naturel qui nous reviennent par des infections, par des maladies. Nous sommes allés trop loin dans notre recherche de gains et de productivité. Et donc, la nature réagit d'une certaine manière pour nous rappeler à l'ordre qu'il y a des limites dans tout ce qu'on peut faire.
Et dans votre tribune, au sujet de l'épidémie du coronavirus, vous dites « Les animaux qui nous ont infectés ne sont pas venus à nous, nous sommes allés les chercher. » Ce qui veut dire que, selon vous, l'homme est parti chercher la maladie lui-même?
L'homme n'est pas allé chercher la maladie, mais l'homme a atteint des écosystèmes. Le niveau de chasse illicite des animaux sauvages a atteint un niveau où nous prenons des risques inconsidérés sans le savoir. Évidemment, nous n'avons pas fait exprès d'aller chercher les virus, mais nous avons ramené les virus puisque nous avons été dans des espaces, nous avons mangé des animaux sauvages sans test vétérinaire, sans analyse scientifique. Par définition, la chasse illégale, elle est faite avec, au secret. Et donc, il n'y a pas de recherche vétérinaire, il n'y a pas de certification vétérinaire. Donc, nous avons pris des risques et c'est pour ça que 60% des maladies infectieuses sont d'origine des animaux sauvages. C'est des espaces que nous n'aurions pas dû atteindre ou des animaux que nous n'aurions pas dû manger sans avoir la certitude qu'ils n'ont pas de conséquences sur notre santé.
Si une chose est certaine, c'est que la pandémie de coronavirus a révélé que le monde n'est pas en harmonie avec son environnement. La maladie est qualifiée de zoonotique par d'autres scientifiques et environnementalistes, c'est-à-dire qu'elle est transmise à l'homme par des animaux. C'est ce que rappelle aussi Sylvie Diakbou. Elle est chargée de campagne forêt à Greenpeace pour l'Afrique centrale.
C'est un rapport suggérant même que le Covid-19 est une maladie zootopique et que la prolifération des maladies zootopiques pourrait être attribuée à la déforestation. Mais il est également noté que, hormis les problèmes de déforestation et les pertes de biodiversité, il est important de noter que planter les arbres ne doit pas être une excuse pour davantage déforester, pour davantage détruire la biodiversité.
Avec la propagation du Covid-19, un pays comme le Gabon a interdit la vente et la consommation de pangolins et de chauves-souris, deux espèces soupçonnées d'avoir participé à la propagation du virus. Dans ce pays d'Afrique centrale, recouvert à 88% par la forêt, la chasse et la consommation de viande de brousse sont très répandues. Le nouveau coronavirus, apparu d'abord en Chine, est issu d'une combinaison entre deux virus différents, l'un proche de la chauve-souris et l'autre plus proche du pangolin, a fait savoir le ministère gabonais des eaux et forêts, citant une étude scientifique. Autant dire que ces espèces et d'autres animaux bénéficient actuellement d'un plan de tranquillité qu'aucun environnementaliste n'aurait osé espérer ou imaginer. En Sierra Leone également, la crise due au coronavirus a mis aux arrêts le trafic de bois de rose vers la Chine. Et pour le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, c'est le moment de repenser les méthodes d'exploitation des ressources naturelles.
Nous avons toujours la possibilité de redresser la situation. Nous avons toujours la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. En quelque sorte, cette crise mondiale, qui est d'abord une crise médicale, donc il faut urgemment arrêter la propagation, mais nous devons marquer un pas. Maintenant que nous sommes en confinement, c'est peut-être le moment de repenser nos méthodes d'exploitation des ressources naturelles. Nous avons toujours la possibilité de subvenir à l'ensemble de nos besoins sans détruire l'environnement. Donc il ne s'agit pas de revenir en arrière par rapport au développement, au niveau de développement que nous avons. C'est toujours possible, mais nous devons réduire notre impact sur l'environnement. Nous devons réduire notre impact sur les écosystèmes. Nous avons toujours la possibilité de produire suffisamment pour les milliards d'habitants de la planète, mais nous avons la possibilité de le faire différemment. Et donc, il s'agit pour nous de revoir comment nous allons promouvoir le développement durable, comment nous pouvons accéder au progrès sans avoir à détruire le milieu naturel, qui est la base, la fondation même de notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sur des roches sans produire, nous ne pouvons pas manger l'argent que nous produisons, nous allons pouvoir utiliser les ressources naturelles pour subvenir à nos besoins.
Et là, revenons à votre tribune et toujours dans cette publication. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Et j'ai retenu deux. Et vous dites, et nul doute que de nombreuses leçons vont être tirées. Et là, ma question, va-t-on enfin commencer à écouter les scientifiques?
Alors, les études scientifiques mettre jusqu'à 30 ans pour arriver aux décideurs politiques. Il y a un gap de jusqu'à 30 ans entre la découverte scientifique et une décision politique. 30 ans, c'est beaucoup de temps. Donc, il s'agit de raccourcir cet espace, de rapprocher les scientifiques des preneurs de décision de manière à ce que les travaux et les publications scientifiques soient accessibles aux preneurs de décision. Ce n'est pas simplement un blâme aux preneurs de décision, c'est aussi aux scientifiques de se rapprocher davantage. Donc, il s'agit de raccourcir ce chemin de manière à ce que les décisions que nous prenons aujourd'hui soient basées sur des travaux de recherche actuels et actualisés, donc pas sur des travaux de recherche qui ont eu lieu il y a 30 ans. 30 ans, c'est toute une génération qui a été sacrifiée avant qu'on ne prenne des décisions. Donc, il va falloir trouver un moyen de construire un pont entre les scientifiques et les preneurs de décision, de manière à ce que les prises de décision soient conformes aux recommandations des scientifiques.
Et l'autre interrogation est la suivante. Très peu se sont penchés sur les causes profondes de la pandémie. Et comment éviter que de telles crises sanitaires ne se répètent plus?
Voilà. Nous faisons face aujourd'hui à une situation d'urgence. Donc, nous sommes toujours dans la salle d'urgence de l'hôpital. Une fois qu'on est sorti de cette salle d'urgence et qu'on a fini de compter nos morts, il va falloir qu'on revienne pour réfléchir ensemble comment nous sommes arrivés à cette situation. Pourquoi le monde dans lequel nous vivons a été si aveugle par rapport à ce que la planète peut supporter que nous avons atteint des situations qui ont causé la crise que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il va falloir réfléchir, prendre du recul, prendre des décisions et dire que plus jamais ça, on a atteint un degré de dégradation du milieu naturel qui n'est pas compatible avec la vie sur Terre.
Avec le ralentissement de l'activité économique, la pandémie de coronavirus a baissé les émissions polluantes dans le monde. C'est particulièrement vrai pour les dioxydes d'azote, même si ça l'est beaucoup moins pour les particules en suspension. Le confinement général a entraîné la fermeture d'usines. Il bloque la population à domicile et limite, par exemple, le trafic des voitures, réduisant ainsi la pollution, notamment celle des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Le sous-secrétaire général des Nations Unies, Ibrahim Tiao.
Alors, Oui, c'est vrai, c'est un constat. Nous avions souhaité que la diminution du taux de pollution ne soit pas liée à une épidémie, évidemment. Nous aurions souhaité que ce soit des décisions prises consciemment par les autorités sur le long terme pour réduire progressivement, comme le stipule l'accord de Paris, pour réduire d'ici 2050. Je pense que ça a été bien réfléchi, qu'on ne peut pas subitement arrêter de vivre, on ne peut pas subitement arrêter le développement économique, on ne peut pas mettre le monde à l'arrêt. Oui, c'est intéressant de le constater qu'il y a moins de pollution, ça veut dire que c'est possible. Alors, la question est de savoir comment on va vivre le post-COVID-19.
Et c'est ma question d'ailleurs.
Est-ce que, oui, c'est bien ça la question. Et nous, ce que nous préconisons, c'est de réduire notre pollution, le niveau de pollution sur Terre, pas parce qu'on est dans une période d'épidémie, mais parce qu'on a eu une politique volontariste, parce que les pays du monde entier se sont mis d'accord, parce qu'on on vit sur une planète, une seule planète, et qu'on ne peut pas continuer à polluer sur une partie de cette planète, alors que l'autre partie du village est au propre. Donc il va falloir qu'on ait une politique volontariste, qu'on reparte sur le même pied, qu'on ait une politique beaucoup plus verte de développement, prenant en compte, bien sûr, ce qui s'est passé, et repartir sur de nouvelles bases, et repartir sur de meilleures bases. Un peu comme ils disent les Anglais, « building back better ». On ne peut pas ignorer ce qui s'est passé en 2020. On doit repartir donc et reconstruire un monde sur une base beaucoup plus durable qui répond aux objectifs de développement durable.
Ibrahim Thiaw, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Si la baisse ponctuelle de la pollution est la bienvenue, le monde n'est pas à l'abri d'un effet boomerang à l'image de la fin de la crise financière de 2008 où les émissions de CO2 étaient reparties à la hausse avec les différents plans de relance des gouvernements. Merci de nous avoir suivis, Kossivitiasou au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.